Bien, bonsoir. Bonsoir aussi à ceux que je n'ai pas encore eu le temps de saluer. Je vais juste me présenter pour ceux à qui je n'ai pas encore parlé pendant cette journée. Donc, mon nom, c'est Joël. Je suis pasteur à Domaine. C'est juste à côté de Grenoble, en fait. On est vraiment voisins. Et je suis là depuis deux ans et demi. Et je suis marié à Anne, qui aurait bien voulu être avec nous ce week-end, mais qui ne peut pas. Elle est étudiante au conservatoire de musique de Grenoble, en piano. Et puis on a un petit garçon qui s'appelle Rubens, qui a un an et demi. Voilà. C'est lui la raison, en fait. voilà pour moi. Donc on va parler de notre rapport à l'argent, c'est ce qu'on m'a demandé. Et on va le faire sous deux angles, celui de la justice et celui de la générosité. Vous allez voir que ça se recoupe. Ce soir, on va voir comment pratiquer la justice dans un monde injuste. Et demain, on va voir comment vivre la générosité dans mon quotidien. Ça, c'est les deux thèmes. Mais juste avant de commencer et d'ouvrir la Bible, j'aimerais juste faire un sondage rapide. C'est en lien avec ce que Johnson disait avant. Il vous demandait si vous rêviez d'être riche. J'ai un peu un autre sondage à vous proposer. Levez la main, qui a accès à l'eau potable ? L'eau potable, tout le monde ? Je pense que ça va. Qui a accès aux soins médicaux ? Ok, on y est. Qui est capable de lire un livre ? Je ne vous demande pas si vous en lisez, ou si vous êtes capable. Qui a de la nourriture et des habits en suffisance ? Ok, je crois que vous avez compris l'idée. Ce que j'aimerais vous montrer rapidement au début, c'est que lorsqu'on entend le mot riche, la Bible parle souvent des riches, on pense généralement à ces personnes qui sont plus riches que nous. Genre, cette personne est riche. On ne se considère pas comme riche en général parce qu'il y a toujours plus riche que nous. Mais les professeurs d'économie Steve Corbett et Brian Fickert observent que si on a accès à l'eau potable, de la nourriture et des habits en suffisance, un toit sur notre tête, l'accès aux soins et la capacité de lire un livre, si on a ça, alors en comparaison avec des milliards d'êtres humains sur la planète, on est très riche. Et quand ces gens pensent aux riches, ils pensent à qui ? Ils pensent à nous. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent, à tout point de vue, nous sommes, en Occident aujourd'hui, les gens les plus riches qui aient jamais marché sur la planète Terre. Et je ne vous dis pas ça pour vous culpabiliser, ok ? Il n'y a pas de mal à être riche, à avoir des biens, c'est même une bénédiction de Dieu, très bien. Mais c'est simplement pour vous montrer que ces questions de richesse, de générosité, de rapport à l'argent, tout ça nous concerne, de très près. Et qu'il est particulièrement important pour nous de réfléchir à comment utiliser nos biens à la gloire de Dieu. Et donc ce soir, on va étudier un passage dans l'Ancien Testament. Je ne sais même pas si vous l'avez déjà lu une fois dans votre vie. C'est en 1 Rois, chapitre 21. Venez voir avec moi. Demain, ce sera un passage beaucoup plus connu, mais ça peut être dit ce soir, pardon, un passage qui est un peu moins lu et étudié d'habitude. 1 Rois 21, et on va lire une partie du chapitre. Et je vais encore prier juste avant de faire la lecture. Seigneur, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes, que tu nous permets d'ouvrir librement ce soir. Nous te remercions aussi pour tous les biens que tu nous accordes, comme on vient de le dire. Nous sommes très riches et nous t'en remercions pour le toit que nous avons ici, le chauffage, la nourriture, les vêtements qu'on peut porter, et même la capacité de lire ta parole, Seigneur. Nous te remercions pour tout ça et nous te prions de nous aider ce soir à voir ce que tu aimerais nous enseigner à chacun. Amen.
Amen.
1 Rois 21, à partir du verset 1. Après ces événements, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth. « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra chez lui, maussade et furibond, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu point ? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jisréel et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël ? Lève-toi, mange de bon cœur. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jisréel. Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Elle envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Elle écrivit les lettres en ces termes. Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple et faites asseoir en face de lui deux vauriens qui témoigneront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait envoyé dire, d'après ce qui avait été écrit, ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth à la tête du peuple. Les deux vauriens vinrent s'asseoir en face de lui et ces vauriens portèrent ce témoignage devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Alors ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jisréel qui a refusé de te la donner pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jisréel afin d'en prendre possession. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots, « Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël, qui est à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes. Ainsi parle l'Éternel. Quoi ? Tu as commis un meurtre et tu prends possession ? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, à l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. » Et je saute jusqu'au verset 27. Verset 27, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et jeûna. Il couchait avec ce sac et marchait lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Voilà, jusqu'ici. En janvier de l'année dernière, vous l'avez peut-être vu, l'ONG Oxfam International a publié son rapport annuel dans lequel elle estime que la fortune des milliardaires a augmenté de 900 milliards d'euros en 2018. Et qu'aujourd'hui, du coup, les 26 personnes les plus riches du monde détiennent autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Autrement dit, la concentration des richesses, si vous voulez, elle n'arrête pas de s'accentuer. Et la directrice de l'ONG explique, je cite, « Le fossé qui s'agrandit entre riches et pauvres pénalise la lutte contre la pauvreté, fait du tort à l'économie et alimente la colère dans le monde. » Et c'est une colère qu'on partage, j'espère, je pense, quand on entend par exemple que l'homme le plus riche du monde, c'est qui, vous savez ? Jeff Bezos, patron de Amazon. Okay. 1% de sa fortune, qui s'élève à 112 milliards d'euros, 1% correspond à tout le budget de la santé d'un pays comme le Soudan. Le Soudan où des enfants meurent de malnutrition, ils meurent de maladies qui peuvent être traitées mais qui ne sont pas, faute de moyens. Alors, bien sûr, ces chiffres ont été débattus, ils ont été discutés, parce que si vous êtes un peu dans l'économie, vous savez que ces milliards de Jeff Bezos, ils sont réinvestis dans l'économie, et puis parce que le niveau de vie aux États-Unis, au Soudan n'est pas le même, etc. Donc ces chiffres sont trop simplistes, dit-on. Ok, peut-être. Mais le constat reste, n'est-ce pas, d'une profonde injustice dans le monde. Il y a des innocents qui sont condamnés, alors que des gens coupables sont relâchés, les riches se servent de leur puissance économique, politique, juridique pour s'enrichir encore plus au détriment des plus pauvres, etc. Et nous, je ne sais pas comment vous sentez, mais nous, en général, on se sent bien impuissant face à tout ça. Que faire ? Est-ce qu'il vous arrive jamais d'être accablé face à l'injustice du monde? Vous regardez les nouvelles et vous dites, oh, qu'est-ce qu'on est en train de faire? L'histoire de Naboth nous enseigne ceci. Dieu se préoccupe de l'injustice, il n'est pas indifférent. Et il nous demande, il nous appelle à faire de même autour de nous. Et pour réfléchir à ça ce soir, à comment pratiquer la justice dans un monde injuste, c'est le thème ce soir, on va se poser trois questions. Okay? Quelle est la racine de l'injustice? Quelle est la responsabilité face à l'injustice? Et quelle est la réponse à l'injustice? Ça va? D'abord, quelle est la racine de l'injustice? Voilà Akab, dont il nous est dit au verset 1 qu'il est roi de Samarie, c'est-à-dire qu'il est roi d'Israël, dont la ville de Samarie est la capitale. C'est une ville grande, somptueuse, riche. Akab nous a dit un endroit qu'il a fait construire un palais d'ivoire à Samarie, une maison toute en ivoire. Imaginez le luxe. Okay? Mais regardez au verset 1. Akab est dans son palais au début de l'histoire, mais il ne s'agit pas de son palais d'ivoire de Samarie. Où se trouve-t-il? Dans quelle ville? Verset 1. J'Israël. Ok. Voilà ce qu'il faut comprendre. Samarie se trouve au nord d'Israël, dans les monts d'Éphraïm, où le climat est très dur, il fait froid. Et du coup, Akab a fait construire une sorte de résidence secondaire à Jisréel. C'est une région luxuriante, où il fait chaud, il fait beau, etc. Donc, si vous voulez, il a un peu sa maison d'été à Samarie, il a sa maison d'hiver à Jisréel. Et voilà que, confortablement assis dans sa maison d'hiver, au coin du feu, Akab regarde par la fenêtre et il se dit « J'entrerai bien quelques salades là-bas, dans le champ d'à côté. » Problème ? Le champ d'à côté où pousse une vigne appartient à un autre, à Naboth. Et quand Akab lui dit, verset 2, regardez, donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison, je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si ça te convient, je te paierai la valeur en argent, Naboth lui répond, non merci. Verset 3. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Pourquoi un tel refus? On a presque envie de dire à Naboth, est-ce que tu es vraiment si attaché sentimentalement au domaine familial? L'offre d'Akab, elle est super généreuse, pourquoi pas dire oui? Mais Naboth ne refuse pas par sentimentalisme, c'est par respect pour la loi de Dieu qu'il refuse. En fait, dans l'Ancien Testament, juste vite fait, il faut comprendre qu'un Israélite, il n'avait pas le droit de vendre définitivement son terrain. Pour une raison toute simple, c'est que Dieu ne voulait pas qu'il soit sans ressources, sans terre à cultiver. Alors, un Israélite endetté, par exemple, pouvait louer sa terre pour une période de 50 ans maximum. Mais au bout de 50 ans, l'année du jubilé, la terre familiale que vous aviez louée pour payer vos dettes vous était rendue, en fait. Elle revenait à la famille. Le but, vous imaginez que c'était bien que les riches ne puissent pas devenir plus riches au détriment des pauvres, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce qui nous montre la préoccupation de Dieu pour la justice sociale. En tout cas, Naboth refuse catégoriquement l'offre d'Akab. Ce que le roi Akab, comment est-ce qu'il le prend? Pas très bien. Hein. Regardez le verset 4. Il nous dit qu'Akab rentra chez lui, maussade et furibond à cause de cette parole. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Okay. Sa réaction n'était-elle pas un tout petit peu excessive? On a envie de dire à Akab, on parle d'un potager là. Tu peux pas planter tes salades ailleurs, vraiment. Pourquoi faire ça? C'est quoi le problème? Pourquoi une telle réaction? Comment expliquer ça? Pour comprendre la réaction d'Akab, il faut comprendre ce qui est à la racine de l'injustice, justement. Et c'est très simple. La racine de l'injustice, c'est ce qui est la racine de tous les maux, selon la Bible. Est-ce que vous avez écouté la lecture d'un Timothée 6 tout à l'heure? C'est quoi la racine de tous les maux? Comment? L'amour de l'argent, exactement. Et notez bien, c'est pas l'argent la racine de tous les maux. Encore une fois, il n'y a rien de mal en soi à avoir de l'argent, être riche, c'est une bénédiction de Dieu. C'est pas l'argent en soi qui est la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Et ce mot amour, ça signifie un désir, une pulsion, comme des pulsions addictives de quelqu'un qui est accro à l'argent. Et comprendre ça, ça nous permet de comprendre la réaction d'Akab ici. Parce que les pulsions addictives, elles ont un effet d'accoutumance. Prenez un toxico, d'accord ? Quelqu'un qui est accro à la drogue. Au début, vous savez comment ça fonctionne ? Au début, une petite dose ça suffit pour planer, hein, pour être dans un état d'euphorie. Mais à mesure que le temps passe, son corps il s'accoutume et il a besoin d'une plus grande dose pour produire le même effet. C'est comme ça qu'on tombe dans la drogue en fait, on commence par une petite dose, un peu plus, une drogue plus forte, etc. Et c'est pareil avec l'argent. Il y a un effet d'accoutumance. À mesure qu'on s'enrichit, et ça va vous arriver au fur et à mesure de votre vie, on s'achète des choses et on veut avoir des choses qu'on ne pouvait pas se permettre auparavant parce qu'on n'avait pas les moyens. Ces choses sont un luxe, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on s'en est passé pendant des années et ça nous allait très bien. Mais maintenant qu'on les a, on s'y accoutume et ce qui était perçu comme un luxe devient une nécessité. Et on s'est dit, le faut. On nous en dit tout ça. Et c'est ce qu'on voit avec Acab ici, ce potager qui était un luxe, en fait, est devenu une nécessité. Il le faut à tout prix, quitte à supprimer Naboth. Voilà quelle est la racine de l'injustice. C'est l'amour de l'argent. Écoutez juste Ecclésiaste 5, verset 7, et pensez à notre pays, la France, aujourd'hui. D'accord ? Il ne faut pas s'étonner, c'est Ecclésiaste 5, verset 7, il ne faut pas s'étonner de voir le pauvre opprimé, ni de voir le droit et la justice bafoués dans le pays. Pourquoi ? En effet, celui qui aime l'argent n'en a jamais assez, et celui qui aime la richesse n'est jamais satisfait. On va revenir sur tout ça à la fin, d'accord ? J'aurai quelques points d'application. Mais posez-vous déjà la question là maintenant, ok ? Est-ce qu'il y a des choses qui, étant auparavant un luxe, sont devenues pour toi une nécessité ? Est-ce qu'il y a des choses qui, il y a quelques années, tu n'en avais pas besoin, et maintenant tu te dis, ça, je ne peux plus m'en passer ? Réfléchissez, d'accord ? On va y revenir après. Mais deuxièmement, après avoir vu quelle est la racine de l'injustice, quelle est la responsabilité face à l'injustice de l'homme ? C'est la suite du passage. Regardez, Acab est encore couché quand sa femme Jézabel entre et apprend ce qui s'est passé. Alors verset 7, elle lui dit, en gros elle lui dit, c'est qui le roi ? Vraiment, Acab, c'est qui le roi ici ? Tu oublies que c'est toi le roi d'Israël. Allez, relève-toi, mange, réjouis-toi, moi je vais te donner la vie de Naboth. Et que répond Acab ? Regardez bien. Qu'est-ce qu'il lui répond ? Rien. Il lui répond rien, alors que toutes les alarmes auraient dû se déclencher, parce qu'il connaît sa femme, Jézabel. Je ne sais pas si vous connaissez Jézabel. Ce n'est pas tout à fait le genre de femme qui passe ses soirées d'hiver au coin du feu à tricoter. C'est si votre femme est une genre d'ogresse qui mange des prophètes de l'Éternel au petit déjeuner, c'est ce qu'elle est, ok ? Et qu'elle vous dit, Naboth, laisse, je vais m'en occuper. Vous vous dites, il y a un problème là, ça sent mauvais. Mais Acab, lui, il ferme les yeux et Jézabel a les mains libres. Elle écrit du coup une lettre au conseil de la ville qui détaille un plan diabolique. Regardez les versets 9 et 10. Elle écrivit les lettres en ces termes, proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple et faites venir. Faites asseoir pardon, en face de lui deux vauriens qui témoigneront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Voilà pourquoi son plan est diabolique. D'une part, c'est de l'injustice, mais c'est de l'injustice légale. Combien y a-t-il de témoins ? Deux, puisque la loi de l'Ancien Testament stipule que tout procès doit se faire sur la déposition de témoins. C'est de vauriens, entre guillemets, mais peu importe, légalement, on est dans les clous. Et d'autre part, c'est de l'injustice, mais de l'injustice recouverte d'un voile de moralité religieuse. À quelle occasion Naboth doit-il être accusé ? Un jeûne. Donc vous avez les habitants d'Israël qui sont là, ils sont en train de jeûner, ils portent des sacs, ils se couvrent de cendres, ils prient, ils jeûnent, etc. Et ils sont complètement indifférents à l'injustice qui se passe sous leurs yeux. Mais Dieu, lui, voit au travers du voile. Écoutez ce que Dieu dit en Ésaïe 58 aux Israélites, qui, comme les habitants d'Israël ici, pratiquaient le jeûne et toutes sortes de trucs religieux, de rituels, tout en négligeant les plus défavorisés. Écoutez bien. Dieu dit, est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime ? S'agit-il de courber la tête, de se coucher sur le sac et la cendre ? Est-ce là ce que j'appelle le jeûne ? Non. Le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, et fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit, tu peux prier, tu peux lire ta Bible, tu peux aller à l'église, si tu n'as pas d'amour pour les pauvres et les défavorisés, tout le reste ne compte pas, à mes yeux. Et c'est très, très important pour nous de comprendre ça. Parce que combien est-il facile, sous un voile religieux de bons chrétiens, de fermer son cœur à ceux qui sont dans le besoin, comme les habitants d'Israël ont fermé leur cœur à Naboth. Bref, le plan diabolique de Jézabel se déroule à merveille. Verset 15, regardez. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jézreel qui a refusé de te la donner pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » J'ai tout réglé, en gros, lui dit Jézabel. C'est bon, je me suis occupé de tout. Mais, dites-moi, aux yeux de Dieu, qui est responsable de l'injustice ici? Est-ce que Jézabel est la seule responsable de toute l'histoire? Non, c'est qui? Achab, exactement, la responsabilité est partagée en fait avec les habitants de la ville et surtout Achab qui pendant toute l'histoire a fermé les yeux. Or, pour Dieu, être indifférent à l'injustice, c'est déjà s'en rendre complice. Verset 19, regardez. Dieu envoie son prophète Élisée. Il dit, tu lui parleras à Achab en ces termes, ainsi parle l'Éternel, quoi? Achab, tu as commis un meurtre et tu prends possession. Achab, même si ce n'est pas lui-même qui a directement commis cette injustice, est considéré comme coupable parce qu'il a fermé les yeux alors qu'il aurait pu agir et qu'il aurait dû agir. Être indifférent à l'injustice, c'est déjà s'en rendre complice. Prenez juste l'exemple de Sodome et Gomorre. Quel est le péché de Sodome? De quel ordre est ce péché? C'est un péché. Vous rappelez des deux villes, Sodome et Gomorre, qui ont été détruites dans un moment? C'est un péché de quel ordre normalement, on pense? Péché d'ordre sexuel? Ça compense peut-être immédiatement. En général, c'est à ça qu'on pense. Comment? Et l'orgueil, exactement, il y a ça, effectivement. Mais d'après la Bible, c'est pas cette question, on pense souvent à cette question sexuelle, c'est pas ça, c'est d'après la Bible. En tout cas, pas que ça. Écoutez bien, en Ézéchiel 16, verset 49. Il nous a dit que le péché de cette ville est qu'elle était indifférente à l'injustice sociale. Je cite. Voici quelle a été la faute de Sodome. Elle avait de l'orgueil, exactement, du pain à satiété, une insouciante tranquillité, et elle ne faisait rien pour secourir les pauvres et les défavorisés. Est-ce que vous avez remarqué? C'est même pas que les gens de Sodome étaient responsables, directement responsables de la misère des pauvres, mais simplement qu'ils étaient indifférents. Et Dieu condamne ça. Comment est-ce que vous vous sentez en entendant ça? Personnellement, je me sens repris. Pourquoi? Parce que moi, on a du pain à satiété. Mais ne vivons-nous pas, nous aussi, dans une insouciante tranquillité, relativement indifférent au sort des défavorisés autour de nous? Je pense que oui, souvent. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est le cas. On a une responsabilité face à l'injustice. Troisièmement, ensuite je vais tirer quelques points d'application et vous allez voir, il y a des tas de choses très encourageantes, ok? C'est un petit peu... troisièmement, demandons-nous d'abord quelle est la réponse à l'injustice. Verset 17 et suivant, c'est là qu'on voit la réponse de Dieu à l'injustice. Alors, une fois que Dieu a vu ce qui s'est passé avec Naboth, cette chose terrible, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots, « Lève-toi, descends à la rencontre d'Achab, roi d'Israël qui est à Samarie, le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes, ainsi parle l'Éternel, quoi? Tu as commis un meurtre et tu prends possession? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, à l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. » Dieu ne redresse pas immédiatement tous les torts, mais tôt ou tard, il le fait. Il y a une justice, ok? Pas qu'en Israël, pas que pour Achab ou pour Jézabel, mais le jour vient, nous dit la Bible, où Dieu, le juste juge, fera justice dans le monde entier. Rien ne lui échappera, pas une injustice ne sera redressée. Et c'est un vrai soulagement de se rappeler ça. Quand on, il y a une justice. Quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, on peut se dire que ce ne sera pas toujours comme ça. Dieu va essuyer toutes les larmes. Dieu va nourrir tous les affamés. Et ceux qui ont triché, qui ont trompé, qui ont tué, eux, ils vont être condamnés. Il y a une justice. C'est un soulagement. Mais si nous sommes honnêtes, c'est aussi un jugement. Parce que personne n'est juste. Et même si nous ne sommes pas de terribles oppresseurs, meurtriers et menteurs comme Jézabel, notre indifférence, bien souvent, nous condamne. Nous méritons le jugement de Dieu au même titre qu'Akab ou Jézabel, que les habitants de Sodome ou de Jizréel. Quelle doit être alors notre attitude? En fait, c'est la même que celle d'Akab au verset 27, regardez. Verset 27, « Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et jeûna. » Notre attitude doit être une attitude de repentance et de foi que le Dieu de justice est aussi le Dieu d'amour et de pardon. Et ça, c'est aussi ce que nous enseigne cette histoire. Parce que voyez-vous, dans la Bible, c'est une question de... C'est toute une histoire de vigne, en fait, cette histoire avec Naboth. Et là, dans la Bible, il nous est dit que Dieu aussi avait une vigne, comme Naboth. En Ésaïe 5, il nous est dit que la vigne du Seigneur de l'univers, c'est la nation d'Israël. Le Seigneur espérait que sa vigne... Il espérait de sa vigne, qu'elle produirait de beaux raisins, qu'Israël respecterait le droit. Mais il n'a rien donné de bon. C'est partout injustice et passe-droit. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes, dans sa vigne, comme Élie, pour appeler Israël à la repentance. Mais Israël a lapidé ses prophètes. Et en voyant ça, Dieu a finalement décidé de faire quoi ? Il a décidé d'envoyer son fils et de dire « Il faut quand même respecter mon fils. » Et je laisse le fils terminer l'histoire. En Matthieu 21, dans une parabole, Jésus dit « Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « C'est lui l'héritier. » Venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. Ils le prirent, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Qui parle-t-il ici? Il parle de lui. Est-ce que vous voyez comment, dans cette histoire, Naboth n'est pas le personnage auquel nous devons d'abord nous identifier? Parce qu'il y en a un autre, un seul, qui peut vraiment s'identifier à lui. Le Fils éternel du Dieu d'Israël. Parce qu'il est le seul juste. Le seul qui est innocent de toute injustice. Et quand vous voyez, prenons un tout petit peu de recul, quand vous voyez cette mauvaise reine Jézabel se liguer avec ce gouverneur peureux, Akab, qui n'ose pas, qui ferme les yeux devant l'injustice qui se passe devant lui, elle se ligue avec ce conseil corrompu des anciens de la ville qui condamne à mort un innocent alors qu'ils savent qu'il est innocent. Comment est-ce qu'on ne peut pas penser à l'injustice que Jésus a subie? Comme le mauvais roi Hérode qui s'est ligué avec le gouverneur Pilate, qui s'est juste lavé les mains de toute l'histoire, et le conseil du Sanhédrin qui ont condamné Jésus au terme d'un faux procès. Vous vous rappelez, il nous a dit à la fin de la vie de Jésus que, en fait, ils ont fait venir exactement comme Naboth, des faux témoins, deux vaut rien, qui ont témoigné contre lui, mais leur témoignage ne concordait pas. Bien sûr, Jésus était innocent. Pourtant, Jésus a été traîné hors de la ville, comme Naboth, frappé à mort sur la croix, lui, le juste, pour les injustes que nous sommes. Et j'aimerais que vous réfléchissiez un instant juste maintenant. Est-ce que vous êtes choqué qu'Akab s'en tire vivant à la fin de l'histoire, alors que Naboth, lui, est couché par terre mort? Est-ce que ça ne vous choque pas qu'il s'en tire si facilement? C'est choc, non? Et on devrait être choqué, parce que la Bible nous dit que c'est un scandale. C'est le scandale de la croix. Nous méritons tous la mort ici, à cause de notre injustice. Mais Dieu a fait tomber sur lui, Jésus, le châtiment que nous méritions. De sorte que tous ceux, et c'est peut-être toi ce soir, tous ceux qui se confient en lui, puissent être gratuitement justifiés, déclarés justes par sa grâce. Et c'est ça la bonne, la merveilleuse nouvelle, d'accord? Oui, notre injustice nous condamne. Notre indifférence face à l'injustice nous condamne. Mais Jésus a pris sur lui notre condamnation. Et si vous croyez en lui, Dieu vous voit en ce moment juste, pardonné. D'accord ? C'est tout. Vous n'avez rien fait pour mériter ça. Vous n'avez rien à faire pour mériter. Il a tout fait. Et Jésus vous appelle simplement maintenant à sa suite à pratiquer la justice autour de vous. Alors venons-y justement, rapidement. Comment pratiquer la justice ? Vous êtes, ça va, vous êtes encore avec moi ? J'aimerais juste vous donner quelques pistes. Là, on va essayer d'être un peu plus pratique. Comment pratiquement, concrètement, que devons-nous faire face à l'injustice ? Est-ce qu'il faut s'engager, si vous voulez, dans toutes les causes sociales ? Est-ce qu'il faut donner à toutes les charities, à toutes les œuvres caritatives ? Non, hein, évidemment. Déjà, ce serait pas vivable et ce serait bien au-dessus de nos moyens. Hein. Nous ne sommes pas, a priori, Jeff Bezos avec 112 milliards à donner au Soudan. Mais alors, que faire ? J'aimerais vous donner 3 idées. Okay ? Pour pratiquer la justice dans un monde injuste, vivons simplement, travaillons consciencieusement et aidons raisonnablement. Et voilà ce que je veux dire. Vivons simplement d'abord. J'ai parlé de l'amour de l'argent. Okay ? D'après vous, qu'est-ce qui est le contraire de l'amour de l'argent ? C'est quoi ? Oh, wow ! Ok, je m'attendais à la haine de l'argent. Ok, ouais, exactement, le contentement. Exactement. On a lu en fait 1 Timothée 6. Rappelez-vous, je vous lis ce verset. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme d'ailleurs nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Est-ce que vous trouvez ça facile, le contentement ? Non. Non. En particulier aujourd'hui. C'est difficile de se contenter de ce que l'on a, parce que ça signifie qu'on doit résister aux mensonges de notre société de consommation et aux mensonges de la publicité. Et voilà ce que j'entends par publicité mensongère. La pub, quand vous allez sur YouTube, que vous avez une vidéo qui apparaît, la pub ne ment pas dans le sens où elle vend un mauvais produit, même si ça peut arriver. Okay ? Non, la publicité est mensongère en ce qu'elle promet satisfaction, mais que son but est de créer l'insatisfaction. Ce sentiment, cette accoutumance dont je parlais tout à l'heure, qui petit à petit transforme en fait un luxe en une nécessité, où chaque achat nous laisse un peu plus insatisfaits qu'avant. Alors, je sais, on se dit qu'on n'est pas si naïf que ça, la pub personne ne croit, personne ne fait attention, etc. C'est vrai. Mais le truc, oui, c'est que même si la pub échoue à vendre un produit particulier, ce qui est généralement le cas, on ne se fait pas avoir, elle réussira quand même toujours à nous vendre la consommation elle-même, en répétant en boucle qu'à chaque problème de la vie correspond un produit qui peut capable d'y remédier. Et qu'on pourrait être heureux, en fait, si seulement on pouvait s'acheter ce produit qui nous manque. Et en fait, à force d'entendre ça et de réentendre ça, on finit par croire que le secret de la vie et du bonheur, c'est d'avoir plus. Un nouvel iPhone, des vacances plus longues, des meilleurs skis, etc., etc. Et surtout, ce message, il est mensonger parce qu'il prend bien soin de cacher le mauvais côté de notre culture de consommation. Chômage, pollution, précarité, etc. Et c'est pourquoi vivre simplement, se contenter de ce que l'on a, c'est encore la manière la plus évidente et la plus efficace de pratiquer la justice. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus rien s'acheter ? Non. Mais ça veut dire qu'on devrait toujours se demander pourquoi est-ce que j'achète ça ? Est-ce que c'est pour être un peu au-dessus des autres ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je ne pourrais pas utiliser cet argent de façon un peu plus utile pour aider quelqu'un ? Etc. Vivons simplement. Deuxièmement, travaillons consciencieusement. Et voilà ce que j'entends par là. À votre âge, ça sonne horrible, j'ai l'impression d'être très vieux, mais à votre âge, c'est-à-dire quand on est étudiant, on a envie de faire quelque chose. Okay ? Et quand on entend parler d'injustice et de pauvreté, de faim dans le monde, on se dit, il faut que je parte en Afrique faire de l'humanitaire, comment est-ce que je pourrais rester ici à rien faire sur le banc de l'Uni alors qu'il y a des gens qui manquent de tout, etc. Et c'est très bien. Si Dieu vous met à cœur d'aller faire de l'humanitaire, très bien. Mais j'aimerais que vous compreniez que vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire et de partir à l'autre bout du monde pour faire une différence dans le monde. Faire votre travail et le faire bien, c'est aussi une manière de pratiquer la justice. Pourquoi ? Eh bien, faites un petit effort d'imagination avec moi. Imaginez que aujourd'hui, à Grenoble, tout le monde arrête définitivement de travailler. C'est terminé, plus personne ne travaille. Que va-t-il se passer quand on va rentrer demain et qu'on arrivera au parking de la Petco ? Vous allez sortir de la voiture, vous allez vous dire, bon, je rentre chez moi en bus. Vous allez arriver, plus de bus, plus de tram, plus de moyens de communication. Vous dites, bon, c'est pas grave, j'appelle mes parents ou un copain pour venir me chercher. Ouh, mince, plus de réseau, plus de communication. Vous dites, bon, le temps que je trouve une solution, je vais aller m'acheter un truc à manger au supermarché. Allez, c'est fermé, il n'y a plus de nourriture dans les étalages. Je vous promets, si tout le monde arrête de travailler, en quelques jours, on se retrouverait tous à se chauffer autour d'un feu de bois, à porter des sacs. Très rapidement, c'est ça la réalité. Ce que je vais juste vous montrer, c'est un exemple un peu bête, mais c'est juste pour vous montrer qu'en travaillant, et en travaillant bien, on contribue au bien-être de la société en général, et donc à élever le niveau de vie de tous, y compris des nécessités. Et c'est pourquoi vraiment j'aimerais vous encourager à ne pas voir votre temps d'études comme du temps perdu, okay, mais voyez-le comme un temps où Dieu vous prépare à mettre vos dons au service des autres par votre travail dans le futur. Travaillez bien, faites bien vos études pour les terminer rapidement, pour trouver un travail. Choisissez un travail qui correspond. Quand vous choisissez un travail, ne vous demandez-vous pas juste combien je vais gagner quand j'aurai ce travail. Vous demandez-vous, est-ce que ça correspond à mes dons? Est-ce que je vais pouvoir utiliser mon travail pour être au service des autres, faire du bien autour de moi, etc. Ça, c'est aussi pratiquer la justice. Ce n'est pas juste envoyer des sacs de riz au Sahel, d'accord? C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc, vivons simplement, travaillons consciencieusement, et dernièrement, aidons raisonnablement. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a la responsabilité d'aider et de favoriser. D'accord ? Et il y en a à Grenoble, il y a des gens que vous croisez qui n'ont pas beaucoup de moyens, il y a des gens dans votre église qui ont sans doute des besoins, c'est bien possible. Mais on doit tenir compte d'un principe clé que l'on trouve dans la Bible. C'est le principe de proximité morale. Vous savez ce que c'est ? C'est très simple en fait. Plus le besoin est proche, plus l'obligation morale d'aider est grande. Et inversement, plus le besoin d'aider est éloigné, plus l'obligation d'aider diminue. C'est-à-dire, je prends un exemple, on trouve ça en fait, ce principe en 1 Timothée 5, qui dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et surtout de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Ou Galates 6 qui dit, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères et sœurs dans la foi. Autrement dit, notre obligation morale est plus grande quand il s'agit d'aider quelqu'un de notre famille, par exemple, que quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, avec qui on n'a pas de lien de parenté, ou elle est plus grande envers quelqu'un de l'Église, un frère ou une sœur de l'Église, qu'envers quelqu'un qu'on croit simplement une fois dans la vie. Et c'est pour ça que je parle d'aider raisonnablement. Okay ? Dans certains cas d'injustice, nous devons agir, parce que sous nos yeux, c'est là où on doit faire quelque chose. Dans d'autres cas, nous pouvons agir. On n'a pas la même responsabilité. Et heureusement, parce que on deviendrait fou sinon, d'accord ? Si on devait vraiment porter le poids des injustices du monde, on deviendrait dingue. Et il y aurait tellement de trucs à faire, on serait fou. Alors, ne faisons pas de chaque possibilité d'aider une responsabilité, et de chaque occasion une obligation, mais demandons à Dieu, et faites-le vraiment. Demandez à Dieu, vous aurez l'occasion aussi peut-être d'en parler en groupe après, demandez-lui de vous montrer quels sont les besoins autour de vous auxquels vous pouvez répondre. Dans votre quartier, dans votre église, dans votre famille, il y a des besoins, c'est sûr, demandez à Dieu qui vous le montre. Faire du monde un endroit plus juste est possible si nous nous y mettons maintenant, là où nous habitons, avec ce que nous sommes et avec ce que nous possédons. Et j'espère que dans le temps de discussion maintenant, on va pouvoir aussi voir comment ça s'applique plus pratiquement. Je vais prier, terminer. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu de justice et c'est un tel soulagement quand on pense à toute l'injustice dans le monde, la pauvreté, la faim, l'oppression. Et Seigneur, on se sent bien nous faibles et impuissants face à tout cela, mais on sait qu'on a un grand Dieu. Nous savons que tu rétabliras toute justice à la fin du monde. Et nous te prions déjà aujourd'hui, conscient que nous sommes couverts de la justice de Christ, que tu nous aides à aller dans le monde, pratiquer la justice autour de nous à la suite de Christ. Dans son nom, nous te prions.